des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
La zone payante. Bienvenue dans la zone payante, amateurs de football. Mathieu Boivin à l'animation du podcast de la zone payante. À ma droite, le fort sympathique Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Québec qui couvre la NFL. Steph, en forme?
Ouais, enrhumé, mais ça va, faut jouer blessé des fois.
Ouais. Ça, c'est une belle déclaration, excellent. Et je me retourne du côté du Jean Carrier, spécialiste fantasy et ex-analyste du Rouge et Or Football. En forme, Jean?
Oui, écoute...
Es-tu à la liste des blessés aussi?
Un petit peu, mais je suis surtout prêt pour une orgie de football en fin de semaine.
Oui, puis on a déjà eu, un appetizer de football le jeudi avec les matchs du Thanksgiving. On va en parler plus tard d'ailleurs. Mais on n'a pas le choix. Je pense, les gars, on commence avec le match. Est-ce que c'est le match de l'année, là? Moi, j'irais avec ça. Le match de l'année, le match de une heure opposant les 49ers aux Ravens, deux équipes à 10-1. Steph, qu'est-ce qui t'inspire dans ce match-là? Moi, il y a beaucoup de choses, mais la première affaire que tu vas regarder, toi, là.
Ben écoute, peut-être que c'est un manque d'originalité flagrant, mais Lamar Jackson, c'est tout simplement inimaginable ce qu'il fait en ce moment.
Ah, il file des stats meilleurs que Vic là, dans ses bonnes années.
C'est drôle là, que tu amènes Vic. Sincèrement, on s'en est pas parlé hors d'onde, puis je voulais directement parler de ça parce que je trouve ça complètement farfelu, moi, les comparaisons.
T'aimes pas ces comparaisons-là?
C'est complètement pas ça, là. Michael Vick, écoute, à 22 ans, les deux, Lamar à 22, Vick, quand il avait 22 ans, il complétait 55% de ses passes.
On est dans un autre monde avec M. Jackson.
Jackson, 67 en ce moment. Donc,
hey, c'est excellent, ça, là.
Pour moi, c'est un passeur vraiment de meilleure qualité. Même si Vic, on se souvient de son bras phénoménal, il était capable de lancer un laser de 50 verges sans que le ballon lève, là. Ça, oui. Mais comme passeur, Lamar Jackson, pour moi, est beaucoup plus complet. Écoute, Vic avait terminé son année de 22 ans, 16 touchés, 8 interceptions. Lamar n'a pas terminé, il est déjà à 24-5. C'est un ratio qui est vraiment formidable comparé à Vic. Pour moi, on est dans une autre stratosphère. Vic avait 777 verges par la course. C'est cette année-là qu'il a établi son record de plus de 1000 verges.
Oui.
Écoute, Lamar, la saison encore là n'est pas finie. Il est déjà à 865.
Non, il est comme sur un, ils disent en anglais, le pace de 1250, ouais, quelque chose comme ça.
C'est ça. Si la tendance se maintient. Comme dirait l'autre. Puis, au-delà des chiffres, pour moi, Lamar Jackson, de ce qu'on raconte dans l'environnement des Ravens, est un joueur beaucoup plus studieux, beaucoup plus impliqué auprès de ses coéquipiers. Tu sais, Michael Vick, il l'a dit des années plus tard. C'est sûr qu'il ne le disait pas en 2001, 2002, 2003, là, mais c'était pas un gars qui était très assidu, disons, dans le livre de jeu. C'était pas un gars dont la stratégie, tous les stratagèmes offensifs, c'était pas sa tasse de thé, là, disons-le comme ça. Lamar Jackson, on voit qu'il veut évoluer, on voit qu'il progresse. De l'an 1 à l'an 2, il a énormément progressé comme passeur.
C'est pas le même joueur, là. C'est comme passeur, on
parle. Non, c'est ça. Puis ça reste un athlète extraordinaire, mais c'est plus juste un athlète. C'est ça qui est fantastique dans son cas. Je pense qu'il s'est bien développé, puis ses qualités de leadership sont appréciées, sont mentionnées par tout le monde dans l'équipe.
Ouais, il a une bonne attitude. Le gars a tout le temps le sourire dans la face, dans un point de presse. Il met toujours une petite... Il rend toujours ça relax pour que tout le monde s'amuse.
J'essaie de pas trop dire d'expression en anglais, mais il est easy going. Tu sais, je trouve qu'il est attachant. Il a un charisme naturel pour tout le monde dans cette équipe-là. Ce que Vic avait pas nécessairement, tu sais... Alors, oui, je comprends la comparaison en termes de prouesse athlétique, mais pour moi, les comparaisons s'arrêtent drette là.
John S.C., Lamar Jackson, le match 49ers-Ravens.
Ben, oui.
Qu'est-ce qui t'allume là-dedans?
Ben, il y a beaucoup de choses qui m'allument. Je veux juste revenir un petit peu, moi, sur la comparaison. Moi, je pense qu'il y en a une comparaison parce que c'est les deux carrières les plus rapides qu'on a vus dans la NFL. Et il y a une des raisons pour expliquer que, selon moi, Vic n'a pas les mêmes statistiques, c'est que les cahiers de jeu n'étaient pas les mêmes. Vic était obligé d'opérer dans un système un peu plus traditionnel. Puis quand on voulait le faire courir, c'était souvent avec des bootlegs. Donc, c'est pas du tout le même style de jeu offensif. Ceci étant dit, oui, tu as raison. Par contre, je pense que Lamar Jackson opère dans un système qui est vraiment parfait pour lui. Et il le fait très bien. Puis c'est normal je pense que ça a juste évolué. Présentement, mais quand tu compares les deux, oui, c'est un bon carrière. Mais Michael Vick a quand même fait des solides choses. Je me rappelle d'un match de série à Green Bay, qui a été le premier, je pense, à éliminer les Packers au Lambeau Field. Puis ils avaient humilié. Il avait été extraordinaire dans ce match-là. Michael Vick, faut quand même. C'est pas un pied de céleri non plus. Donc, c'est juste ça que je voulais mentionner.
La précision du John Essay.
Par contre, c'est ça. Là, je veux parler, moi, du match. C'est ça qui m'inspire. Et moi, ce que je veux vraiment voir, c'est que là, je commence vraiment à me poser des questions. Comment arrêter Mark Jackson ou du moins un peu le contrôler? J'ai pas vu présentement de stratégie défensive depuis le début de la saison qui, tu sais, m'a jeté à terre. Et je commence vraiment à me poser la question, est-ce que une équipe comme les Niners, malgré le fait qu'ils ont vraiment une solide ligne défensive, est-ce qu'ils sont capables d'arriver avec une 43, tout simplement de base, puis être en mesure d'arrêter ce système offensif-là? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Peu importe les éléments que tu as. Moi, c'est ça que je suis pas certain.
La question, tu fais bien de la poser, parce qu'ils ont eu de la misère contre les corps arrière mobiles cette saison. T'sais, Russell Wilson les a battus, puis oui. Kyler Murray est passé proche deux fois.
Deux fois, exactement. Fait que je pense que la question se pose. Moi, c'est ça que, stratégiquement, est-ce que les Ravens, faut les jouer en 40? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Là, tu me demandes quelle sorte de défense.
Ben oui, je m'en allais là, Jean. Ben, qu'est-ce que toi, tu ferais?
Honnêtement, moi, j'utiliserais trois joueurs de ligne, puis je les ferais jouer vraiment à l'intérieur. Donc, une vraie 34, là, avec trois joueurs intérieurs et quatre joueurs là, qui seront pas sur la ligne de mêlée à l'extérieur. Et si tu veux courir à l'extérieur avec ton carrière, ben vas-y. J'essaierai de faire courir le plus souvent possible Lamar Jackson. Là, tu vas dire, t'es fou, là, comment tu fais? Tu veux pas le faire courir? Oui, tu veux le faire courir. Tu veux qu'il mange des shots. Tu essaies évidemment de contenir ces courses-là à 3-4 verges. Mais je pense qu'avec un personnel comme ça, puis un personnel rapide sur le terrain, un peu comme les Chargers avaient fait, puis c'est ça que je comprends pas de la NFL. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'équipes qui auraient imité les Chargers en série l'an dernier.
Avec sept demi-défensifs
pour essayer d'arrêter Lamar Jackson. Il y avait beaucoup de vitesse sur le terrain, puis c'est une stratégie qui avait fonctionné. Oui, je pense que par contre, les Ravens se sont un peu ajustés avec leur cahier de jeu, puis
avec le personnel qu'ils ont embauché.
Exactement. Ouais, je pense que ça s'est amélioré, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire là. Donc, c'est ça qu'on va, je pense, répondre en fin de semaine. Est-ce que, je pense pas que les Niners vont vouloir changer en fin de semaine. Ils vont arriver avec leur défensive, leurs quatre joueurs de ligne défensive qui sont dominants. Est-ce que ça va être suffisant pour aller arrêter la machine offensive des Ravens? C'est ça qu'il faut se poser comme question.
Puis le point aussi là-dedans, tu sais, t'essaies, mettons, d'imiter le style des Chargers dans les dernières séries. Les Ravens, ils ont fait une grosse signature dans la saison morte qui est Mark Ingram. T'arrives avec un porteur de ballon qui a du poids, qui a du muscle, qui adore le jeu physique, qui en mange. Lui, il va arriver contre les sept demi-défensifs. T'sais, il risque de s'amuser. Puis les Ravens...
On va courir, il n'y a pas de problème.
Ben, ils jouent de plus en plus aussi à deux ailiers rapprochés, parfois trois ailiers rapprochés. Sont robustes à l'attaque. Je pense que c'est un peu leur façon de faire un doigt d'honneur à cette stratégie-là qui a été adoptée contre eux en série. C'est bien embêtant. Moi, honnêtement, là, je serais mal pris en ce moment de défendre contre les Ravens et Lamar Jackson. Puis, je m'en remets aux commentaires de, je pense que c'est Eric Weddle après la volée là, contre les Rams la semaine passée. Lui a dit cette semaine, honnêtement, il a parlé aux journalistes après le match, puis il dit honnêtement, on voit pas la moitié du temps, il est où le ballon? On ne sait plus le ballon est où. C'est quand même fou qu'un joueur de la trempe d'un Eric Weddle en vienne à dire ça.
Un bon vétéran, là, ça là. Fait que c'est quand même surprenant. Fait que là, vas-y.
Ben, du côté des Rams aussi, c'est pas le dernier venu non plus, commentateur défensif. Là.
Ben non.
Wade Phillips a été coaché de la défensive toute sa vie dans la NFL.
Ah oui.
Il a eu du succès, on se rappelle avec les Broncos, entre autres. C'est un gars qui en a vu du football, puis il a pas trouvé de solution. Là. Et écoute, c'était disgracieux là, ce qu'on a vu sur le terrain la semaine dernière. Là.
Donc, les 49ers, pour gagner ce match-là, dont on parle de Lamar, mais at large, en gros, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On le sait, la ligne 1, contenir Lamar, après ça.
Moi, je m'en remets à la bonne vieille stratégie que l'attaque au sol va être meilleure défensive.
C'est-à-dire,
faut que
écoule le temps.
Puis les Niners, ça, c'est le côté intéressant chez eux. Ils ont le personnel pour le faire. T'sais, ils ont 2 et 3 bons porteurs de ballon qui peuvent faire le travail. Jimmy Garoppolo, sans être un corps arrière d'élite, lorsqu'il va avoir un gros troisième essai et 4, admettons, il va être capable d'aller le chercher. T'sais, c'est dans ces situations-là qu'il a été le meilleur Garoppolo cette année, malgré quelques revirements coûteux. Je pense que les Niners ont la ligne à l'attaque et le champ arrière pour s'imposer dans ce match-là, pour contrôler l'horloge. Qui dit contrôler l'horloge, dit Lamar Jackson qui ronge son frein sur le banc. Je pense que ça reste leur meilleure stratégie défensive, aussi farfelu que ça puisse paraître, dire ça comme ça.
Non, non, c'est pendant que tu cours, ben, le temps s'écoule. Écoute, tu prends ton temps, tu prends ton 45 secondes au complet. Donc, pendant ce temps-là, il est sur le banc, Lamar.
Mais c'est ça, ça risque d'être un match à la vieille école. Ça risque. Je pense qu'on pourrait ressortir les casques de cuir là, pour un match comme celui-là. on va retomber en 1940 là, où la passe verticale était presque un à côté, là, une arrière-pensée. Ça risque de frapper fort. Ça va être vraiment quelque chose.
Selon moi, c'est les deux équipes les plus physiques
oui,
de la NFL.
C'est ça.
Puis là, ça s'en va de front.
Tête à tête.
Il y a quelque chose qui va tomber. Les gérants d'équipement sont mieux d'être prêts parce que selon moi, il y a quelques chin straps qui risquent de revoler dans ce match-là. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment intéressant. Mais moi, je pense que c'est l'équipe qui va gagner. C'est l'équipe qui va prendre contrôle de la ligne de mêlée. Et ça sera pas facile des deux côtés. Là, ça va être une guerre de tranchées. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match-là.
Le seul dommage dans tout ça, c'est que c'est à 1 h.
Ben oui, c'est ça qui est un peu plate. On aurait aimé ça le match du dimanche soir.
Oui, s'asseoir tranquille, regarder que ce match-là. Évidemment que ça va être le match sur lequel on va être concentré, en tout cas pour ma part. Je pense que vous aussi. Mais il y a toujours d'autres distractions à 13h. Tu regardes un peu à gauche, à droite, ce qui se passe partout dans la Ligue. Là. C'est le seul regret que j'ai par rapport à ça. Je comprends pas que la Ligue l'a pas mis en bon vieux prime time. Mais honnêtement, je pense que c'est un match qui va remplir ses promesses. Tu sais, des fois, on attend un match avec impatience. Pis
c'est un flop, là, un peu. Là.
Je vois pas comment ce match-là peut aller d'un bord, là, vraiment, de façon exagérée. Je pense que les deux équipes vont donner leur meilleur football, que ça devrait se disputer jusqu'à la fin.
Puis la température aussi, je pense qu'elle annonce un peu de pluie pour ce match-là. On dirait que ça rajoute au fait, puis il y a un peu froid. Donc, ça va être vraiment là, un match, je pense, comme des années 50.
Donc, bien sûr, on va faire une petite exception. On va donner nos prédictions peut-être pour ce match-là en avance. Et moi, je vais pas très original. Victoire des Ravens, j'ai l'impression que Lamar, l'impression que le jeu au sol, ils vont trouver une manière d'aller chercher ce match-là. Victoire des Ravens pour moi. Stéphane?
J'ai hésité longtemps, mais j'y vais aussi avec les Ravens. Honnêtement, oui, les Niners, on parlait de bataille sur la ligne de mêlée là, dans les tranchées. Ils ont ce qu'il faut.
Oui, c'est ça. Ils vont être capables de se battre dans ce match-là, c'est certain.
C'est pas une équipe qui risque d'être intimidée par les Ravens, parce que les Niners, c'est pas des doux non plus. Là. Je pense qu'ils s'en vont là sans complexe. Mais honnêtement, les difficultés qu'ils ont eues contre les corps arrière mobiles dans cette saison-là me font peur, surtout que Lamar Jackson, il a corps arrière mobile et dans une autre stratosphère, il y a Lamar Jackson. Tu sais, il est complètement dans un autre monde, là, pour l'instant en tout cas, que des gars comme Kyler Murray et Russell Wilson en termes d'explosion lorsqu'il passe la ligne de mêlée. C'est vraiment, vraiment dangereux. Je vois pas comment on va l'arrêter.
Jean Guerrier!
Ben, messieurs.
Oh, avoyez-donc, j'en ai.
Non, j'y vais aussi avec les Ravens. Et ce que je voulais dire aussi de Lamar Jackson, ce qui, moi, m'impressionne, c'est avec le nombre de courses qu'il a fait depuis le début de la saison, je me rappelle pas d'avoir vu Lamar Jackson manger un vrai contact franc.
Contre les Texans, je me rappelle contre un safety, je me rappelle plus lequel, là, mais il avait franchement été frappé là, sur une course lorsqu'il était dans le open field. Mais c'est la seule fois que je me rappelle cette saison.
T'sais, mais ça reste quand même impressionnant pour le nombre de fois qu'il touche au ballon puis qu'il, honnêtement, prend des décisions un peu plus à risque qu'un autre carrière. Moi, c'est ça qui m'impressionne.
Très bon
point. Il est très, très difficile à frapper franc, là, de façon solide. Donc, de toute façon, je prends les Ravens. Je pense que Lamar Jackson va être meilleur que Jimmy G et il va faire la différence dans le match.
J'adore ton point parce qu'honnêtement, combien de fois des corps arrière mobiles comme ça, on dit ils courent à leur perte, tôt ou tard, ça va les rattraper.
Il y en a un qui va le geler.
Il va se casser une côte, il va se casser une jambe. C'est vrai que Lamar Jackson glisse comme un savon, là, finalement.
Et il y a un peu cette capacité-là que moi, je vois, c'est Marcus Allen était un peu comme ça, comme porteur de ballon, très difficile à frapper de façon franche. Il glide un petit peu. Désolé, l'anglicisme, honnêtement, je peux pas le dire en français, mais il fait juste éviter à la dernière seconde. Puis, tu sais, il est très difficile à pincer. On va dire ça comme ça. Donc, moi, je pense que c'est ça. Ça, je pense qu'il va faire la différence dans cette rencontre. Victoire Ravens.
Donc, c'est votre trio d'animateurs qui prévoit une victoire des Ravens dans ce match-là. On prend une petite pause et ensuite, on s'en va parler d'un monsieur roux. Alors, de retour, oui, on parle de rousseur dans la zone payante cette semaine et on n'a pas le choix de se diriger vers le match de jeudi après-midi où, encore une fois, les Cowboys ont échappé à un match contre une équipe avec une fiche gagnante. Le propriétaire, M. Jones, a dit qu'il allait garder Garrett en place, mais... N'est-ce pas le temps, ou serait-ce le temps, Stéphane, de montrer la porte à M. Garrett, l'entraîneur des Cowboys, à la suite de cette défaite contre les Bills de Buffalo?
Bon, première des choses, je suis content parce que quand tu as amené que le sujet qu'on parlerait d'un roux, j'avais peur qu'on fasse un segment sur Andy Dalton, je voyais pas le point. Deuxièmement, Garrett mériterait, oui, de perdre son poste. Ça, c'est une chose, mais est-ce que c'est le temps? C'est ça ta question?
Oui, en fin de saison, comme ça.
C'est pas le temps. Tu peux pas faire ça. Soyons logiques, c'est bien beau crier, là, faut le mettre dehors. Tu le remplaces comment? T'es à quoi, un mois et quelques, là, un mois et des poussières de la fin de la saison. Tu vas amener un autre système, une autre façon de faire. C'est pas le moment de faire ça. Honnêtement, je vois pas comment les Cowboys pourraient en arriver à tracer cette conclusion-là et à se dire c'est la meilleure façon pour nous d'aller faire les playoffs. Faut pas oublier une chose. La division est extrêmement faible. Les Cowboys ont quand même de très bonnes chances de la remporter puis de se faufiler en série malgré tout. Est-ce que c'est un résultat qui serait suffisant? Non, j'en conviens. Mais c'est parce que là, si tu dérailles le système-là, si tu fais dérailler le train que tu amènes un nouveau coach qui va avoir de toute façon l'étiquette intérimaire, ne sera pas forcément beaucoup plus respecté par les joueurs. Je vois pas comment tu peux gagner dans cette situation-là à mettre Jason Garrett dehors tout de suite, puisque c'est ça la question. Est-ce que c'est le temps? Non.
Johnny, qu'est-ce qu'on fait avec le Clapper of the Year?
moi, j'aime le point de Stéphane. Je le garderai un peu malgré tout. Puis écoute, tu le mets dehors. Mais là, il y en a qui vont dire, ouais, mais si tu sais que tu gagneras pas, mais on sait jamais parce que ça reste que tu as quand même du talent dans cette équipe-là. Donc,
une bonne défensive, des bons
éléments. Une défensive qui joue vraiment pas à son niveau.
Oui, ça, mais je parle au niveau du talent, là, sur papier.
Mais honnêtement, on a du talent. Moi, Jason Garrett, là, c'est le Ryan Fitzpatrick des entraîneurs.
Oh my God, c'est comme la pire comparaison de tous les temps. Là.
Ça veut dire qu'il est survécu à tout, même au scorbut.
Exact. Écoute, ce gars-là aurait dû être mis dehors bien avant ça. Puis, pour une raison que j'ignore, ben c'est pas vrai. Jerry Jones l'a déjà mentionné, il aime Jason Garrett comme personne.
Il aime l'individu.
Je pense
qu'il aime aussi le fait que Jason Garrett va jamais se mettre dans son chemin.
Aussi.
C'est pas un Bill Parcells.
Non, et c'est surtout pas l'ancien entraîneur là, des Cowboys, Jimmy Johnson non plus.
Non.
Que les deux, Jimmy Johnson avait un fort ego et avec raison, puis c'est un excellent entraîneur. Puis c'est pour ça qu'il avait été mis un peu dehors. Les deux, c'était chicané. Écoute, depuis qu'il est en poste, il a fait les séries trois fois. C'est sa neuvième saison. 3-8, là, c'est pas tant une bonne...
Puis une fiche de 2-3 en série, ce qui est pas reluisant non plus.
Ils ont jamais franchi plus qu'un match de division. Ils ont toujours perdu en match de division. Pour moi, honnêtement, la question se pose pas. Ce gars-là devrait être mis dehors. Il a eu plus de chances que la grande majorité des entraîneurs dans la NFL. Puis honnêtement, il devrait remercier le ciel présentement de jouer dans une division aussi faible Parce que, honnêtement, les Cowboys ne méritent pas de faire les séries. Là. Écoute, c'est un club de 500 présentement. À chaque fois qu'ils ont frappé une équipe qui était un peu bonne, ben, ils ont été tout simplement jugés insuffisants. On l'a vu avec les Bills hier. Donc, ça va être quand même difficile. Et malgré tout ça, tu as quand même une chance de gagner ta division. Donc, moi, la question que je pose, c'est s'ils gagnent la division, est-ce que vous pensez que ça va être assez pour garder son poste? Moi, c'est ça qui me fait peur. Puis c'est ça un peu l'effet de Jason Garrett. Si tu dis, ah, c'est sûr qu'il est terminé, là, il en fait juste assez.
Ah, il rentre en série.
Il
gagne une petite game.
Il gagne une game, puis là, ils vont se faire sortir en match de division. Si c'est ça, est-ce qu'on le garde quand même? Moi, je pense que la réponse, c'est non, parce que tu ne gagneras pas le Super Bowl avec ce gars-là.
Puis je pense qu'avec l'alignement que les Cowboys ont en place cette année, Jerry Jones et les partisans et les médias et tout le monde s'attendait à plus des Cowboys cette année. Tu sais, il n'y a pas énormément de faiblesses dans ce club-là. Des lacunes majeures, là, moi, j'en vois pas beaucoup là, chez les Cowboys. Quand tu regardes ça, ils seraient supposés gagner leur division relativement facilement. Bon, je dis ça, puis moi, j'avais mis les Eagles en tête de division, mais c'est un autre club, ça, qui répond pas aux attentes. On en reparlera un autre tantôt.
Éventuellement.
Mais la chose que je trouve bizarre dans la gestion de toute la situation de Jason Garrett, pourquoi on l'a amené cette année sans contrat en poche? Le fameux, en anglais, on dit le lame duck year, c'est-à-dire que Jason Garrett, son contrat vient à échéance au terme de la saison. C'est jamais une bonne situation pour un coach par rapport en situation d'autorité par rapport à ses joueurs, de respect, tout ça. Les joueurs le savent à un moment donné qu'il est sur la corde raide, qu'il n'a pas eu la confiance du propriétaire pour une prolongation de contrat. Donc, c'est un jeu dangereux qu'a joué Jerry Jones. Je comprends à la limite sa stratégie. Lui avait dit avant la saison, moi, personnellement, je suis à mon meilleur quand j'ai pas de filet de sécurité. Donc, c'est un peu la situation dans laquelle il a voulu placer Jason Garrett. Sauf que tu te retrouves dans cette fameuse année-là où c'est difficile de te faire valoir. C'était une situation un peu perdante à mes yeux. Si tu le prolongeais, ben là, évidemment, tu y accordais une confiance qui n'était peut-être pas méritée. Donc, pour moi, ça aurait dû être fait il y a déjà quelques années de cela. C'est ça le problème, c'est là où je veux en venir. Le faire avant la saison, c'était pas le bon moment. Le prolonger de contrat, c'était pas une bonne façon de gérer les choses non plus. Donc, les Cowboys s'en allaient un peu dans le mur avec cette situation-là de Jason Garrett.
Il y a une chose de quand même un peu plus positive que je vais donner à Jason Garrett, c'est que dans son bilan, il y a juste une saison en bas de 500. Puis c'est ça un peu, c'est qu'il en fait juste assez pour garder son poste, tout simplement. Il y a trois saisons de 500 et toutes les autres sont en haut de 500.
Mais là, ça dépend de ta définition après en tant que propriétaire. Je parle pas toi, là, Johnny, mais en tant que propriétaire, Jerry Jones, c'est quoi, lui, sa définition de juste assez?
Exactement.
Est-ce qu'on se contente, comme les Canadiens, de faire les séries ou de cogner à la porte des séries puis c'est juste assez?
Et les Cowboys n'est pas n'importe quelle franchise. Non. J'ai rien contre les Jaguars de Jacksonville, mais dans l'importance de la NFL, les Cowboys, c'est énorme. C'est un énorme marché. C'est comme t'as pas le droit d'être mauvais puis d'avoir des mauvaises attentes avec les Cowboys. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question également. Moi, j'ai l'impression que ça va être la fin à la fin de la saison.
Ça va être la fin à la fin de la saison. Est-ce que Stéphane, tu vois la fin à la fin de la saison aussi?
Ça pourrait même, je te dirais que ça va être à la fin de la saison, là, presque assurément, oui. Mais écoute, il y a un match à la semaine 16, le 22 décembre, contre les Eagles. Ouais. Si les Cowboys perdent ce match-là à plate couture, là, on fabule, on est dans l'hypothétique.
On parle d'un blowout, là.
Mais s'ils perdent ce match-là 30-8, là, Jason Garrett va passer un Noël très, très, très solitaire et triste.
Je sais pas si vous avez trouvé ça. J'ai trouvé qu'hier que Dak faisait courir pas mal après. J'ai trouvé que la ligne offensive des Boys hier en avait plein les bras. Je sais pas comment vous voyez ça de votre côté.
Ben, les Bills ont une bonne défensive.
Oh oui, ça, j'en suis tout à fait conscient.
Faut vraiment pas oublier ça. Un front seven qui est dominant. Ils ont repêché dans les trois dernières années beaucoup de personnes sur ce front-là. Puis là, ils commencent à récolter les dividendes de ça. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est vrai que pour avoir une super ligne à l'attaque, qui est supposé être sans faille, il y a eu de la pression hier sur Dak Prescott. Je te le concède.
Oui, puis tu sais, on parlait de... C'était sans équivoque encore jusqu'à l'an passé ou à peu près. On disait, c'était même pas une discussion, c'est la meilleure ligne offensive de la Ligue. Tu sais, je suis plus sûr qu'on en est rendu là. Puis non seulement ça, mais cette année, il ne faut pas oublier une chose, il y avait le centre Travis Frederick qui revenait là, d'un long combat contre la maladie. Il avait raté toute la saison dernière. on pensait que la ligne allait prendre une coche, que ça allait être la saison du siècle pour Ezekiel Elliott. C'est pas le cas. Ezekiel Elliott est bon, pas plus cette année. Dak Prescott a connu un gros début de saison. Depuis ce temps-là, bon, il a des ratés. La pression est forte sur lui. C'est pas nécessairement la lacune de l'équipe. Là, on ira pas jusque-là. Mais c'est pas la performance de la ligne à l'attaque auquel on était en droit de s'attendre.
Et juste pour peut-être conclure sur Dak Prescott qui veut un gros contrat.
Ouais, c'est pas une bonne manière d'avoir des gros contrats.
Hier, c'était son 13e match de plus d'un turnover, de plus d'un revirement lors des trois dernières années. Il y a un seul carrière qui a plus que lui,
Jameis.
Et c'est Jameis Winston.
Ouais. Puis,
donc, c'est pas une bonne statistique.
C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de statistiques au niveau des verges, il y a des touchés, mais en effet, il y a beaucoup de revirements.
Mais t'as beaucoup de verges quand tu tires de l'arrière.
Exactement, surtout en fin de match,
t'es obligé de lancer. Beaucoup. Le bon vieux garbage time, lui, il en a vu un peu trop, je pense, avec les Cowboys.
Ouais. Bon, ben les boys, c'était fort intéressant. On va prendre une petite pause et ensuite, on s'en va vers les prédictions des matchs du week-end.
I got news for you, buddy. We're going to win the game. I guarantee it. I guarantee it. I guarantee it.
Enough said.
Alors, on est de retour. Quelques matchs en moins à prédire pour la fin de semaine compte tenu des matchs du jeudi. Et on va commencer avec un match. Je vais commencer avec Jean Carrier, tiens. Titan qui visite les Colts. Les Colts qui ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Et les Titans qui jouent du bien meilleur football depuis l'arrivée de Ryan Tannehill. Jean Carrier, qu'est-ce que tu vois dans ce match-là?
Ben, écoute, je continue. J'ai une bonne séquence avec les Titans.
On va t'écouter, Jean, là-dessus.
Moi, je vois une défaite des Titans face aux Colts.
C'est tellement possible que ça arrive en plus.
J'aime pas nécessairement le plan de match des derniers matchs des Colts. Je trouvais qu'il était trop axé un petit peu sur le jeu au sol. Oui, c'est important d'établir son jeu au sol, mais Frank Wright est un petit peu trop conservateur à mon goût. J'ai l'impression qu'il va ouvrir un peu les valves en fin de semaine. Ça va faire du bien à cette attaque-là, puis Brissett est capable de le faire. Il a montré qu'il est capable présentement. Il a une bonne saison. Donc, je m'attends à une bonne performance offensive des Colts contre les Titans. Puis, je pense pas que c'est une bonne idée de... comment je dirais ça? Aller attaquer le front défensif des Titans sans relâche au sol. Ils ont une bonne défensive. Ils vont arrêter le sol. Faut que tu te fasses respecter. Mais je pense que c'est le jeu aérien dans ce match-là des Colts qu'il faut qu'ils rouvrent un petit peu la machine.
Donc, tu vois un bon match, même si Hilton ne joue pas.
Oui, je pense que ça va être un match quand même serré. Puis, j'aime les receveurs des Colts qui ont quand même des outils pour quand même là ouvrir le jeu. Je pense à Paris, entre autres. Je pense à
Pascal.
Pascal, exact. Pascal, que je trouve que j'aime bien aussi. Donc, ils ont les outils nécessaires.
Je voyais avec une victoire des Titans. Stéphane Cadorette, dans ce match-là.
Ouais, j'y vais avec les Titans aussi. Pourtant, écoute, les Colts, c'est la bête noire par excellence des Titans. Ils ont 14 victoires à leurs 16 derniers matchs contre les Titans. Donc, c'est quand même à considérer. Là, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct. Là. Les Colts, par contre, à mon sens, ils vont manquer un peu de munitions. Là. Je suis d'accord avec Jean, faut qu'ils ouvrent le jeu aérien. Jacoby Brissett, on l'a un peu... mis dans du papier bulle dans les dernières semaines depuis qu'il est revenu de sa blessure. Là, c'est le temps de le lâcher lousse si tu veux avoir une chance parce que c'est vrai que le front défensif des Titans peut prendre le contrôle de ce match-là. Cela étant dit, moi, sans Hilton, sans Ebron...
Sans Mack.
Sans Marlon Mack, il y a un moment donné où je trouve que l'attaque commence à manquer de punch. Même si au sol, Jonathan Williams a très bien fait là, sans Marlon Mack, faut le dire. Ça devrait être serré, mais je pense que cette fois-ci, avec Derrick Henry... les Titans peuvent exorciser leurs démons.
Et on parle pas assez de Ryan Tannehill, qui fait très bien comme pivot. Là,
oui, on avait parlé à un moment donné de cette année des carrières backup. C'est un des rares, par contre, qui peut aller en série. Oui,
honnêtement, depuis que le changement s'est fait...
4 victoires, 1 défaite.
Et l'attaque des Titans ne ressemble plus à ce qu'elle était, tout simplement. Il faut y donner crédit. Je pensais pas dire ça un jour, de donner du crédit à Ryan Tannehill. C'est maintenant fait dans la zone payante.
Yeah. On continue. Jets qui visite les Bengals. Jean, est-ce que tu y vas avec une autre prédiction circonstancielle cette semaine?
Non.
Qui a presque marché.
Ça a presque marché, ouais, mais presque, ça se fait pas. C'est, écoute, bottom line, c'est qu'ils ont pas gagné. Non, moi, je pense qu'ils ont raté leur chance la semaine passée, les Bengals. Et les Jets devraient facilement disposer des Bengals.
Après avoir explosé des Raiders, personne ne voyait ça venir. J'y vais, bien sûr, avec les Jets. Stéphane, upset dans ta manche?
Non, même...
Surtout avec le retour du roux, justement. Là, parlons d'un autre roux.
Retour d'Andy Dalton, l'expérience Ryan Finley qui a clairement pas fonctionné. Mais moi, j'étais d'accord quand même avec ce que les Bengals ont fait, c'est-à-dire que la saison allait nulle part. Il était quoi, 0-8 quand ils l'ont mis dans l'alignement, Finley? Fallait que tu vois ce que le jeune avait dans le ventre. Fallait que tu vois ce que tu penses que c'est un gars qui peut t'amener plus loin là, dans
le jeu. Ils sont branchés.
Ils sont branchés, il faut qu'ils repêchent un corps arrière. T'sais, ça n'a pas le choix. Donc, bonne décision. Moi, je ne les critique pas pour ça. Maintenant, Dalton revient. Va peut-être donner un peu de punch à l'attaque. Mais est-ce qu'il est capable de jouer en défensive, Andy Dalton?
Non.
Non. Ils sont pas capables, les Bengals, de jouer défensivement. C'est atroce. Victoire Jets, assez facile.
Donc, bien sûr, le match 49ers-Ravens, on en a parlé plus tôt dans l'émission. Buccaneers qui visite les Jags. Je vais y aller avec une victoire des Jags, mais avec pas tant de conviction. Là. John, ici.
Ouais, moi, je les ai pris parce qu'ils jouent à domicile.
Ouais, c'est un petit peu ça, ma logique. Là.
Écoute, Nick Foles, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, ce match-là. Là. Je peux pas dire que j'ai la réponse absolue. Je mettrai pas ma maison là-dessus, mais je vois avec les Jags.
Stéphane!
C'est fantastique de vous voir aimer les Jags à ce point-là, malgré tout le tort qu'ils vous ont causé
tout
cette
à fait,
saison.
Tout à fait.
C'est beau à voir.
Mais là, tu es en train de dire que les Bucks t'ont illuminé ton univers, hein, Steph?
Absolument pas, mais je voulais souligner votre fidélité. Vous êtes des gens loyaux. Mais non, les Bucks ne m'ont pas illuminé. En fait, c'est un match qui ne m'allume pas du tout. ça risque d'être, encore une fois, le festival du revirement. Mais il y a un aspect que j'aime chez les Bucks. Je pense qu'on va donner beaucoup le ballon à Ronald Jones, le deuxième. Et c'est pas un porteur de ballon qui m'emballe particulièrement, mais ce qui m'emballe, c'est que les Jaguars ont concédé au moins 200 verges au sol à leurs trois derniers matchs.
Run the ball.
Donc, ça risque de limiter peut-être les perspectives d'interception pour Jameis Winston. On y va au sol, on y va avec les Bucks. Un match qui va avoir beaucoup d'intérêt pour leur famille proche.
On continue. Un match quand même au niveau des chances des équipes de faire les séries. Browns qui visitent les Steelers. Le match revanche du carnage d'il y a deux semaines, remporté par les Browns à ce moment-là. Moi, j'y vais avec une victoire des Steelers, tout le monde le sait. Jean Carrier, qu'est-ce que tu vois là?
Écoute, je vois la vengeance des Steelers et je pense pas qu'ils ont le personnel idéal pour affronter les Browns. Ils sont maganés.
Notre troisième quart.
Quand j'ai vu ce qui s'était passé et j'ai vu le match qui allait suivre après à Pittsburgh en très peu de temps, honnêtement, la logique va prendre tout simplement le dessus. Les Steelers vont trouver une façon de gagner ce match-là. Puis écoute, je suis un partisan des Browns et je le dis, je pense que les Browns s'en vont dans une certaine boucherie. Là. La défensive des Steelers va être très méchante dans ce match-là. Moi, je vois une victoire des Steelers.
Monsieur Calavette.
Ouais, moi, écoute, quand je revois les escarmouches à la fin du dernier match, je me dis que les Steelers vont tomber en mode pas fin. Ça risque de faire mal à l'attaque pour les Browns, en tout cas.
Et je crois pas qu'il va y avoir des coups. Là.
Non, je parle pas de coups salauds, mais je pense qu'on va resserrer, on va jouer du gros football défensif. On ne gênera pas pour frapper fort. Je vois pas nécessairement là, des cheap shots, mais je pense que les Browns vont comprendre le message qu'on n'a pas nécessairement aimé la fin du dernier match. J'y vais avec une victoire des Steelers. Ça pourrait être corsé un bon vieux match de
parce que les protagonistes ne sont pas là, là.
C'est-à-dire que le carrière qui s'est fait soigner le casse, il va être sur le banc et c'est Duckman qui va jouer le match comme carrière partant. Puis quand
mais
il est là.
Au point où on en est, il peut pas faire pire que Rudolph. Il avait perdu toute confiance, Rudolph.
Ouais,
il était plus capable de lancer une passe, passer son nez.
Non, capitaine check-down, c'était le temps de le mettre sur le banc.
Ben, c'était le temps parce que vous auriez perdu aussi contre les Bengals s'ils s'en allaient pas sur le banc.
Ah non, c'est tout à fait vrai. Puis Duckman, on a beau reprocher bien des choses de pas avoir de bras. Stéphane en a parlé, c'est vrai. Quand il est là, on dirait que le monde veut se battre pour lui.
Ouais.
Comme l'impression que, tu sais, c'est l'histoire du joueur pas repêché, que ça change. Puis il a l'air au moins d'être respecté par ses coéquipiers. Donc, je vais voir des Steelers, bien sûr.
Mais ça va être un bon vieux match de la AFC North. Il n'y en avait pas vraiment de rivalité. Tout ce qui était Browns générait pas forcément de rivalité. Puis c'est le fun, il est en train de s'en créer une.
Non, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Hein.
Je pense que ça sera peut-être pas si facile que ça, mais les Steelers ont joué de manière féroce avec beaucoup de mordants.
Et ça reste que les Browns vont se présenter aussi.
Ah non, non,
ils ont une chance de faire les séries s'ils remportent le match, de revenir dans le portrait. Puis on va voir. Je pense de quel bois chauffe Baker Mayfield. On va voir, tu sais, oui, il a mieux joué dans les dernières semaines. Là, tu vas avoir un gros, gros, gros test sur la route face à une défensive qui est pas fine. On va voir ce que ça va donner.
Packers qui visitent les Giants rapidement, à moins que vous ayez un upset, les gars. Packers, Jean?
Oui, Packers.
Stéphane?
Packers, décidément, ça, c'est sûr.
Eagles qui visitent les Dolphins, messieurs, ça sent la victoire des Eagles. Pour ma part, Jean, as-tu un upset dans ta manche?
Non,
vraiment pas.
Surtout que là, la porte est ouverte aux Eagles pour revenir à égalité avec la même fiche que les Cowboys. Je vois pas comment ils vont échapper ce match-là.
Stéphane? Ouais,
exactement. Puis les Eagles qui devraient en théorie récupérer quelques joueurs blessés. Là, on parle du bloqueur, notamment Lane Johnson, qui est leur meilleur joueur de ligne offensive.
Oui, par 1 000.
On parle que Alshon Jeffery pourrait être en uniforme aussi, de fortes chances. Donc, l'alignement à l'attaque devrait être pas mal plus intéressant que dans les dernières semaines. Puis quand tu affrontes la défensive des Dolphins, qui, oui, s'est améliorée, là, ils ont quand même créé quelques revirements dans les derniers matchs, mais on n'est quand même pas au niveau d'une défensive très solide. Je pense que ça va être un bon match pour la confiance de Carson Wentz.
La tertiaire des Dolphins est spectaculaire. Spectaculairement mauvaise, les gars.
Ah non, c'est impressionnant. Là, quand tu regardes le depth chart, là, excusez-moi l'anglicisme, les Rams, les matchs de 4 heures qui commencent, match Rams qui visitent les Cards, et les Rams, je regarde cette équipe-là, on s'en va par en bas, et les Cards, malgré une fiche pas parfaite, on a vu des affaires intéressante. Je vais avec une victoire des Cards à la maison. Jean Carrier.
Même chose. Je pense que les Cards vont y aller avec le upset face aux Rams. Et je pense que les Rams, il y a deux façons de se relever. Soit tu te relèves puis tu te bats. Moi, j'ai peut-être l'impression que ce club-là va abandonner d'ici la fin de la saison. Je m'attends à en tout cas, j'ai hâte de voir, mais moi, j'ai une victoire des Cards face aux Rams.
Monsieur Cadorette.
Ben embêtant, celui-là, ça en est un des embêtants de la fin de semaine. J'ai hâte de voir, là, parce que les Rams pourraient s'écrouler totalement après la volée qu'ils ont mangée face aux Ravens.
Hey, c'était-tu une volée?
Ça? Ou ça peut faire le contraire, ça galvaniser.
Ça peut les fouetter, ouais, c'est ça.
Je vais y aller avec l'effet inverse cette fois-ci. Moi, c'est un peu le match de la dernière chance. Je pense qu'ils vont neutraliser Kyler Murray et les Cards. On oublie que même s'ils se sont fait manger tout rond au sol par les Ravens, c'est une équipe qui donne seulement 3,7 verges par portée. Je pense que la défensive va se réveiller. Ça va avoir été bénéfique, cette défaite-là. En tout cas, c'est mon call. Je pourrais le regretter.
Mais j'ai encore de la difficulté avec l'attaque des Rams qui fait rien. Mais même s'ils vont jouer une bonne défensive face aux Cards, il faut quand même que tu comptes des points. Puis j'ai vraiment plus confiance dans cette attaque-là qui se pose. Je pense qu'il commence à se poser des questions aussi.
C'est un facteur.
Je joue pas avec confiance.
C'est un facteur que j'aime dans ce match-là, justement, en faveur des Rams. Les Cards sont quoi, 29e en défensive? T'sais, ils ont leurs difficultés. Je pense que c'est un adversaire défensivement.
Prenable.
Qui tombe au bon moment pour une attaque en perdition, là, en chute libre, qui cherche ses moyens désespérément. La présence des Cards est un peu rassurante, entre guillemets, à ce niveau-là.
Chargers qui visitent les Broncos. Les Broncos, des fois, qui nous montrent des affaires pas si pires, mais on se rappelle que c'est une saison difficile pour les Broncos. Je vais avec une victoire des Chargers, mais sans aucune conviction. Stéphane?
C'est à peu près ça. Moi, je surveillais toute la semaine. Est-ce qu'on allait donner le ballon à la recrue Drew Lock? Écoute, il n'y a pas d'indicateur en ce sens là pour le moment. Je pense qu'on va continuer d'y aller avec... Brandon Allen. Je vois pas comment les Broncos peuvent se sortir indemnes de ce match-là. Écoute, j'y vais Chargers, mais c'est pas encore une fois là, avec grande conviction.
Monsieur Carrier.
Ben moi, je crois que les Broncos vont l'emporter.
c'est pas une mauvaise prédiction.
Et écoute, Philip Rivers, j'ai l'impression qu'il s'est pas remis.
Ah non.
Tu fais qu'on l'a mis au bord la semaine dernière.
Ah, mais il est pas bon. Il est super bon récemment.
C'est ça. J'ai l'impression qu'il va encore avoir quelques revirements. Ben, un ou deux mal placés. C'est surtout aussi des fois, il y a des revirements qui font moins mal que d'autres.
C'est
Et lui, c'est vraiment à des moments clés des matchs.
Sur une longue séquence, à la fin, tu viens pour marquer un toucher puis il lance un...
Beaucoup de revirements dans la zone payante.
Dans la zone payante, exact. Ouais. Donc, selon moi, victoire des Broncos.
Hey, mais Matt, une tradition dans la zone payante.
Oui, oui, oui.
On a sauté un match, Redskins-Panthers.
Hey, sérieux, là.
C'est pas parce que c'est un match grandiose, mais bon...
C'est vrai. J'ai été pris par la manque de qualité d'un des adversaires là-dedans, les Panthers qui reçoivent les Redskins. Y a-tu quelqu'un qui voit les Redskins là?
Passons rapidement. C'était juste pour dire que
je me
nargué un petit peu.
Alors, c'est correct. De toute façon, ta job, c'est vraiment de surveiller si je dors pas sur la Switch. L'impression. J'ai dormi sur la Switch.
Les Panthers et CMC va piler des stats dans cette rangée.
Oui, pour le pool de John C., en notamment qu'il y a M. McCaffrey. C'est très bon. Donc, victoire des Panthers, je crois, pour tout le monde. On
unanime.
On revient au match de 85. Merci, Stéphane. Raiders qui visitent les Chiefs. Est-ce qu'on va voir les Raiders des semaines précédentes, des fois qui nous montraient des belles choses? On va voir les Raiders qui sont faites éclater par les Jets. Johnny, qu'est-ce que tu vois dans ce match-là?
Ben, je vois surtout une des grandes rivalités de la NFL. Donc, au niveau de l'intensité, ça sera pas un manque d'intensité comme on l'a vu la semaine dernière des Raiders. Puis, depuis le début de la saison, les Raiders, en général, ils s'étaient présentés à chaque match. Je pense vraiment que c'était un
accident de parcours.
Oui, tout à fait, un accident de parcours. Pour les Chiefs, ben écoute, c'est moi je trouve qu'ils jouent du meilleur football défensif. J'ai aimé ce que j'ai vu face aux Chargers là, au Mexique. Tranquillement, pas vite. Je pense que la stratégie défensive de c'est Pagnolia qui est là, qui est le coordinateur défensif, commence à prendre forme. Je m'attends à voir des Chiefs concentrés et l'emporter dans un match qui va être amplement disputé, mais je pense que les Chiefs vont ils ont trop d'attaques pour tout simplement là se faire surprendre à la maison.
Je reprends le trop d'attaques et mais j'y vais avec une victoire des Chiefs, mais j'y vais avec une explosion. J'ai détesté ce que j'ai vu des Raiders la semaine dernière.
Même si c'est un match de division.
Ça va être un blowout, victoire des Chiefs. Stéphane.
Ouais, je pense que c'est le match où Patrick Mahomes va redevenir lui-même, là, tranquillement, pas vite. Tu sais, dans les dernières semaines, c'est pas qu'il a pas été bon, là, mais il a pas fait les faits saillants de la semaine à Lamar Jackson.
Il avait l'air humain.
Ouais, c'est ça.
On dirait qu'on y a retiré.
Il a pas lancé à droite quand il a regardé à gauche, ouais, comme il fait des fois, là.
Ils l'ont comme opéré, là, puis ils ont retiré ses gènes extraterrestres ou je sais pas quoi, mais non, je pense qu'il va revenir. Puis les Chiefs, effectivement, qui créent des revirements dans les derniers matchs, ça c'est intéressant. C'est pas une défensive qui va faire peur, qui va intimider l'adversaire, mais si elle est opportuniste, qu'elle crée des revirements, les Chiefs vont être vraiment durs à battre d'ici la fin de l'année.
Et puis, s'ils sont en mesure de... Moi, je trouve qu'ils ont quand même un pass rush intéressant.
Ouais.
Donc, s'ils sont,
sont
en mesure de garder des deux élans, des trois élans, mettre l'adversaire un petit peu dans ces situations-là, ben ils vont avoir du succès.
Petite note, les Raiders n'ont pas gagné à KC depuis 2012.
Alors, ça va se poursuivre, de mon opinion et celle de mes collègues. Patriots qui visitent les Texans, le match du dimanche soir, un match fort intéressant. Je suis pas capable d'y aller contre les Pats. J'aimerais ça. Je pense que tout l'univers, non pas tout l'univers, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça voir les Pats perdre. Mais non, les Pats vont gagner ce match-là. Tout simplement, une défensive de feu. Non, victoire des Pats. Jean?
J'ai la même chose que toi. Victoire des Pats parce que, écoute, on est en fin novembre. C'est là qu'ils commencent à jouer du bon football. On cherche encore l'attaque au niveau de la Nouvelle-Angleterre. J'ai l'impression que on va enlever la semaine dernière. Faisait tellement pas beau pour les deux équipes.
Ouais, c'est difficile de voir.
C'est vraiment difficile, selon moi, d'avoir une attaque, là, je dirais, acceptable. Là, il y a un petit peu moins l'excuse dans le dôme là, à Houston. J'ai l'impression aussi que le retour de Sanu va aider, va stabiliser un peu l'attaque aérienne. J'ai l'impression que les Pats offensivement vont être un peu meilleurs. La défensive va faire ce qu'il y a à faire et victoire des Pats.
As-tu une surprise dans ce match-là pour nous, Stéphane?
Pas de surprise. J'aurais voulu ébranler les colonnes du Temple, mais ce sera pour une autre fois.
Ce n'est que partie remise.
Tu parles d'un retour pour les Patriots, celui de Sanu. Moi, je vais vous parler du retour de la semaine passée du bloqueur Isaiah
Wynn. Oui, j'ai pensé de le mentionner.
Il a changé la perspective au niveau du jeu au sol. Je pense que Sony Michel va sortir tranquillement de sa coquille d'ici la fin de la saison. Il va connaître un bon mois de décembre, une bonne fin novembre. Je pense qu'on va le voir pas mal en action là, face aux Texans.
Il est habitué de courir derrière lui. De toute façon, il l'a fait à l'université. Les deux viennent de Georgia.
Ouais. Les Texans, par contre, qui ont gagné certains matchs cette année où on les attendait pas. T'sais, rappelez-vous quand ils ont battu les Chiefs. T'sais, c'est une équipe là, qui commence tranquillement à être à maturité, je pense. Deshaun Watson qui fait des gros jeux, donc... Ça sera pas nécessairement une partie de plaisir comme ça l'a déjà été. Moi, je me rappelle des années où les Texans arrivaient à Foxborough, ils se faisaient laver, c'était même pas drôle, alors qu'on pensait que c'était une bonne équipe. Je pense que cette fois-ci, ils vont offrir une bonne opposition, mais je vois mal les Patriots l'échapper, et surtout avec la façon dont leur défensive joue. Écoute, ça va être très, très difficile pour les Texans de s'imposer au niveau aérien.
Pour que Houston l'emporte, Deshaun Watson a besoin d'être magistral. Point final.
C'est bien résumé.
Pas de marge de manœuvre.
Non, vraiment pas.
On continue. Et le dernier match, j'ai pas obligé d'oublier d'autres matchs, Stéphane. Tout va bien?
Tout est sous contrôle.
Excellent. Donc, les Vikings qui visitent les Seahawks, le match du lundi soir, un match qui va être... assurément, âprement disputé. Monsieur Carrier, dans ce match-là, que voyez-vous?
J'ai hâte de voir ce match-là. Je me suis longtemps posé la question aussi. Je suis pas encore vendu aux Vikings. Je sais que c'est une bonne équipe. J'aime l'attaque des dernières semaines que j'ai vues, mais j'ai toujours l'impression que je vais voir un Cousins à heure de grande écoute.
Au bord!
L'échapper. est-ce que c'est là? On va voir. Écoute, moi, j'ai... Puis l'autre point, c'est Russell Wilson. Lui, quand c'est important, il joue du très, très bon football. Il trouve une façon de gagner. C'est vraiment un gagnant, Russell Wilson. C'est un carrière, personnellement, que j'adore. Je vois une victoire des Seahawks et qui est encore, d'ailleurs, dans la course. On pense que Lamar Jackson, qui est tout seul, Russell Wilson est encore dans la course pour le joueur le plus utile de la NFL.
J'aime les Seahawks aussi dans ce match-là. Victoire pour les Seahawks pour ma part. Monsieur Cadorette, qu'on fait? Oh là, il y a la face du gars qui sait pas quoi dire, mais qui se pose encore la question à ce stade-ci.
Je vois un homme déchiré, présentement.
Oui, exactement.
C'est plus la face du gars qui a pas le choix d'y aller avec les Seahawks.
Oh!
Un peu comme moi qui n'avais pas le choix d'y aller avec les Steelers.
Ben, c'est un peu ça, puis... Surtout que cette semaine, on a noté une soudaine blessure à la poitrine pour Dalvin Cook qui devrait jouer, mais quand que ces bobos-là commencent à sortir puis que c'est ton meilleur joueur le plus dominant, c'est vraiment le joueur sur lequel ils ont une chance. Là, s'ils veulent battre les Seahawks, c'est sur lui qu'ils doivent s'accoter. Parce que je pense pas que Cousins, soudainement, là, tu sais, on a parlé beaucoup du match contre les Cowboys que les Vikings sont allés chercher. Que ça exorcisait leurs démons à heure de grande écoute, que ça vraiment, ça rachetait les contre-performances de Kirk Cousins là, à répétition dans les matchs en soirée. Quand on voit l'état actuel des Cowboys, on se dit « Ouais, c'était peut-être pas ça finalement. »
Ça n'était peut-être pas un bon test.
Je pense que aller battre les Seahawks à Seattle à heure de grande écoute, avec Russell Wilson qui va improviser hors de sa pochette, les Vikings qui ont chuté au 20e rang cette saison en défensive contre la passe, ça c'est surprenant. C'est pas dans leurs habitudes.
Xavier Rhodes n'est plus l'ombre de lui-même.
Ah non, c'était un top 5 au niveau des demi de coin dans la ligue. Puis là, c'est une passoire cette année. J'aime pas du tout le match-up à ce niveau-là. Je pense pas que ça va être une rince, mais je vois pas comment les Vikings peuvent aller le chercher. Si toutefois ils le font, là, franchement, on n'aura plus le droit de douter d'eux.
Et les Seahawks, écoute, j'écoutais Pete Carroll, puis avant le match contre les Niners. Il disait qu'il était pas content de la défensive et depuis ce temps-là, mais la défensive a repris un peu du poids de la bête là, à Seattle. Donc, écoute, un autre facteur sur le...
Pro Seahawks,
effectivement.
Le tour d'horizon est fait pour les matchs du week-end. On prend une petite pause et on s'en va directement à la chronique au bar. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Whoa. Alors, de retour pour la chronique au bar. À la chronique au bar, pour ceux qui sont moins habitués, on envoie un athlète ou une équipe ou une direction d'équipe au bar réfléchir après des mauvaises performances ou des mauvaises déclarations ou des mauvaises actions. Et je vais aller dans la cour des Steelers de Pittsburgh cette semaine. J'envoie Juju Smith-Schuster. Monsieur, je m'en vais mettre une vidéo sur Instagram où je roule à 100 000 à l'heure. Ça, c'est le même dude là, qui pourrait peut-être pas jouer en fin de semaine en raison de blessures. C'est pas intelligent, ça amène de la mauvaise presse pour rien. Les gens pensent que t'es pas intelligent.
Le type de blessure aussi, Matt, c'est quoi qu'il y a présentement?
On parle-tu d'une commotion? Fait que, tu sais, non, il y a rien de bon là-dedans. Ça paraît juste mal. T'avais pas besoin de faire ça. On aime Juju, le gars qui amène de l'énergie dans l'équipe, qui se bat comme un diable dans l'eau bénite sur le terrain pour remporter des matchs, mais on trouve que ça manque un petit peu de maturité. Alors, Juju, au bar, cher ami. Par contre, si tu vas au bar, ne prends pas ta voiture après si t'es en état d'ébriété et prends un taxi. Johnny Carrier.
Écoute, moi, ça se peut que j'y aille avec le gars que j'envoie au bar parce que je l'aime beaucoup. C'est un joueur que j'ai toujours aimé, mais malheureusement, je vais envoyer Earl Thomas directement au bar pour sa déclaration. Écoute, tout va bien dans l'entourage des Ravens. T'as un joueur qui est candidat au joueur le plus utile de la NFL. Je parle de Lamar Jackson. L'équipe est en feu. Puis là, Earl Thomas se fait poser la question. Là, il dit, ben écoute, ça va bien. On essaye juste de jouer notre meilleur football qu'on est capable de faire. Arrête ta citation là. Tout est beau. Tu peux t'en aller. Non. Il a fallu qu'il rajoute. Et je pense que quand on va être au Super Bowl, l'équipe qui va nous rencontrer va être dans le trouble. J'aime beaucoup la confiance d'Earl Thomas envers son équipe. J'aime ça, mais t'avais pas besoin de ça. C'est pas le genre de promesse que je pense pas qu'un joueur peut promettre ça. Surtout quand il reste 5 matchs ou 6, dépendamment des équipes, là, d'ici la fin de la saison. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, des impondérables. C'était mieux de te la fermer. D'un autre côté, je vais le respecter énormément si les Ravens se rendent jusque-là. On se rappelle, ça me fait penser un peu au fameux Bears quand il avait fait la danse du Super Bowl Shuffle bien avant la fin de la saison.
Semaine
5, exactement. Et écoute, il avait fini la saison avec une seule défaite puis ils ont marché sur tout le monde en série. Peut-être que c'est ça les Ravens aussi. On va le découvrir en tout cas en fin de semaine face aux Niners.
Monsieur Cadorette, qui mérite la dernière place au bar pour cette semaine?
Je sais que d'habitude, on envoie un solo au bar, mais je vais envoyer un duo cette semaine.
Non, c'est ça, exactement. On peut envoyer plus qu'une personne au bar à la fois.
Et voilà. Ça va au mérite après tout.
Oui, exactement.
Donc, j'envoie Jerry Jones au bar et je l'accompagne évidemment de Jason Garrett. Écoute, premièrement, pourquoi Jones? Je trouve qu'il a placé son entraîneur dans une position impossible dans la dernière semaine en répétant ad vitam aeternam. Il n'arrêtait plus de le dire à quel point fallait que Jason Garrett gagne une game, que sa job n'était pas assurée, qu'il était tanné de ci, de ça. Tu le mets dans une situation insoutenable. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça quand tu sais de toute façon que tu ne feras pas un changement d'ici la fin de la saison? Ça, j'ai trouvé que c'était bien moyen le côté gestion. Puis, Jason Garrett, pourquoi l'envoyer au bar? Ben, c'est pour l'ensemble de l'œuvre, parce qu'il ne mérite pas la confiance de Jerry Jones de toute façon. Donc, je les envoie les deux au bar, puis je me dis, écoute, il n'y a rien de mieux des fois qu'une cuite pour remettre les choses en place entre deux bons chums, puis replacer les choses sur le droit chemin.
Non, c'est ça. En boisson, tu règles tous les problèmes du monde. Tu dis, on va faire ça de même, puis tout va bien dans ce temps-là.
C'est ça. Puis je me dis, ça peut être intéressant d'envoyer Jerry Jones au bar. Ça va permettre une tournée, de scotch vieilli 100 ans. Là. Il est capable de payer ça à tout le monde. faut juste s'assurer de ramasser les clés de Juju en sortant.
Oui, exactement. Les gars, on a une autre zone payante dans la pochette complétée. On va vous inviter, chers amateurs, à venir faire un petit tour dans la section fantasy parce que là, on va se dire des vraies choses. Dernière semaine de la saison régulière pour beaucoup de poolers. Donc, des gens qui vont regarder des matchs du week-end avec un petit stress de plus. Donc, si vous avez besoin de conseils, venez nous voir dans notre section fantasy. J'ai été avec Jean Carrier, Stéphane Gadorette. Merci d'avoir été là, messieurs. Et on vous souhaite un bon week-end.
Messieurs et mesdames aussi.
Oui, c'est vrai, merci. Messieurs et mesdames, merci.